On se retrouve avec Pierre Legrand pour parler de notre sujet du jour, qui est l'histoire de la nature, de l'écologie, de l'environnement. Et dans la première partie de cette émission, on était en train de dire que finalement, il y a plusieurs façons de présenter ces différents sujets. Une façon un petit peu optimiste et puis une façon un petit peu pessimiste. Et justement, quand on écoute les médias aujourd'hui, la radio, la télé, c'est toujours finalement des catastrophes climatiques qu'on nous annonce. Et c'est toujours une façon subjective de présenter le sujet. Il faut être contradicteur, finalement. Pas dire seulement blanc ou noir, mais étudier les deux façons d'aborder le sujet. Donc vous, Pierre Legrand, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours eu différentes évolutions climatiques, des cycles, finalement, plutôt chaud, plutôt froid. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, alors
En ce qui concerne ce climat, je vais quand même. La fin du 19e siècle, le réchauffement a repris ses droits. Le record de température pour Orléans datait de 1947. Il a résisté plus de 70 années pour être dépassé lors de l'été 2019.
Oui, comme on dit, les records sont faits pour être battus. C'est un record qui datait de 70 ans, donc finalement, il n'a pas fait si chaud que ça pendant 70 ans. Quoi.
Et surtout que le record a été battu, je crois, d'un dixième de degré seulement. D'accord. Donc c'est presque pareil.
Et finalement, quand je vous entends parler, quand je vous entends aborder ce sujet, c'est complètement différent finalement par rapport à ce qu'on entend tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, on est catastrophiste et finalement, vous êtes peut-être plutôt objectif parce que vous vous basez sur des faits historiques.
Mais c'est-à-dire que j'ai un certain âge et c'est peut-être le privilège de l'âge. Et j'ajouterais que je pense avoir une assez bonne mémoire sur ces situations climatiques. Et donc, je mes souvenirs d'enfants, mes souvenirs d'adultes, mes souvenirs de retraités. Et en permanence, la nature, j'ai toujours considéré qu'elle était excessive. On est ou trop froid ou trop chaud, on est trop sec, on est trop humide. Et on a besoin de tout. Mais aujourd'hui, les médias sont en permanence sur ces sujets-là. Ils sont nombreux et il faut bien qu'ils parlent de quelque chose. Et donc, je dirais que c'est à chacun de nous de prendre du recul sur ce qu'il entend et faire la part des choses.
Oui. Effectivement, et moi je préfère me baser sur votre expérience, comme vous disiez, vos souvenirs, et en plus votre expérience d'agriculteur, c'est-à-dire que vous avez finalement toujours observé la nature, donc vous êtes peut-être mieux placé que d'autres pour dire si il y a eu des catastrophes par le passé et des choses comme on les vit aujourd'hui, quoi.
Alors des catastrophes en agriculture, il y en a toujours eu et il y en a encore. La recette de le salaire d'un agriculteur, c'est sa récolte avec derrière un prix. Et aujourd'hui, par une nature excessive, on est vite dans du découvert. Mmh. Et donc, on est très sensible à ce climat et les conséquences qu'il a pour les cultures. Mmh. Je dirais que même il y a quelques personnes qui font encore du jardin et savent ce que c'est que de récolter. Il y a des années, ils récoltent beaucoup dans leur jardin, et puis d'autres, il pleut souvent et il y a des maladies qui s'installent. Les tomates, elles pourrissent avant qu'elles se mûrent. Mmh. Et dans la plaine, c'est la même chose. Je pourrais ajouter aussi, puisque là, depuis presque un an, nous sommes en période de pandémie avec le Covid. J'ai une anecdote qui date du 29 mars 1832, où il était noté qu'il faisait anormalement chaud et on relevait à Paris une température de 28 degrés. Une épidémie de choléra s'est déclarée et en quelques mois, on comptera en France plus de 100 000 morts.
Je dis bien 28 degrés au mois de mars.
Hein. Au mois de mars.
Au mois d'août, on aurait compris.
Mais... Oui, mais au mois de mars, je pense qu'au mois de mars 2020, je n'ai pas les températures en tête.
Il ne fera pas 28 degrés.
Mais on s'est peut-être approché, une journée ou deux, on s'en est peut-être approché. Mm-hmm. Donc, 1832, 2020, Donc 170 ans bientôt, et ça existait déjà au 19e siècle.
Ouais, je crois que c'est une bonne chose de faire ce que vous faites, c'est-à-dire se baser sur les faits historiques.
Mais c'est pas moi, c'est Monsieur Ladurie qu'il faut remercier, ouais. Parce que c'est lui qui a consacré beaucoup de temps pour sortir ces deux petits volumes, ouais. Que chacun pourrait acheter. J'ai acheté ça en livre de poche, c'est pas une fortune, je ne sais plus combien ça a coûté, mais c'est intéressant de se reporter à l'histoire. Aujourd'hui, souvent, les gens voudraient balayer l'histoire sur de nombreux sujets, mais l'histoire, c'est quand même ce qui a fait notre planète.
Oui, on attache beaucoup d'importance, finalement, à l'avenir, le futur. On est trop dans le présent, et puis finalement, le passé, comme vous dites, on l'oublie, et on devrait davantage se baser sur ce qui s'est passé avant, quoi.
Moi, je dirais qu'on a besoin des deux, parce que pour avoir des projets, il faut savoir d'où on part, et donc constater ce qui s'est passé avant, et après faire des prévisions. Mais avec les risques de se tromper et que tout n'aille pas comme on l'aurait souhaité, mais ça fait partie de la vie.
C'est l'objet de cette chronique, justement, c'est un petit peu d'étudier l'histoire et puis de voir comment l'histoire peut conditionner, justement, notre présent et notre avenir. Donc vous vouliez parler également de cet ouvrage de François Gervais sur l'urgence climatique qui est un leurre.
Oui. Donc François Gervais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Orléans il y a 2 ou 3 ans. Il était venu faire une conférence à la médiathèque d'Orléans. Et donc le titre de son intervention, « L'urgence climatique est à l'heure ». Donc je vais essayer de vous en tracer quelques passages. En 200 ans, nous sommes passés d'environ 700 000 habitants à 7,5 milliards sur la planète, source Wikipédia. La combustion des ressources fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, gaz de schiste, a contribué en un siècle à augmenter de 0,3% à 0,04% le taux de gaz carbonique dans l'air. Ce n'est pas lui la cause des hausses de température. Dans l'air, pour 10 000 molécules d'air sec, on a 7808 molécules d'azote, 2096 d'oxygène et 4 molécules de gaz carbonique. Le reste, surtout de la vapeur d'eau.
Donc il y a très peu de CO2 dans l'air, finalement.
Et voilà. Et depuis très longtemps, on nous dit qu'il faut faire très attention parce que les volumes de gaz carbonique augmentent. J'ajouterais qu'on a peut-être eu raison de nous faire attention parce qu'on n'a pas intérêt à ce que ça augmente de trop. Il ne faut, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne jamais être excessif, essayer de contrôler le maximum de ce qui peut se passer.
Bon, malgré tout, l'effet de serre, il est là. Les glaciers qui fondent, on le voit. Il faut interpréter tout ça.
Alors, le gaz carbonique est absolument nécessaire à la croissance des plantes par la photosynthèse. Il ne faut pas confondre le gaz carbonique CO2 et le monoxyde de carbone CO, qui lui est un poison, mais limité par les pots catalytiques aujourd'hui sur les voitures. Depuis 1960, la production mondiale de céréales a été multipliée par 5. Un monde sans carbone serait un monde sans vie. Le réchauffement climatique est devenu un business. Au forum de Davos, en 2015, on a compté 1600 vols de jets privés. L'industrie du changement climatique est estimée à 1500 milliards par an. Marché du carbone, officines et consultants en carbone, séquestration du carbone, stockage de l'électricité, véhicules électriques, etc. Nombreux sont ceux qui espèrent plus. Bon élève grâce au nucléaire, la France émet seulement 1% des émissions mondiales de gaz carbonique. Les émissions ont été réduites de 20% en 25 ans et leur impact reste négligeable sur le bilan mondial. Sauver la planète est devenu une puissante pompe à impôts. La taxe à la tonne de carbone débutait à 7 euros pour passer à 30,50 en 2017, puis 44,50 en 2018. A priori, une hausse annuelle est programmée. Ces taxes sont utilisées pour investir dans des énergies intermittentes, photovoltaïques avec des panneaux fabriqués en Chine, ou éoliens surtout importés d'Allemagne. Vous pouvez vérifier la hausse régulière des taxes sur votre facture d'électricité.
Oui, donc là, François Gervais introduit beaucoup de thèmes qui sont intéressants. On peut en discuter sur le fait qu'en France, la production d'énergie est complètement différente. On est à 80% dans le nucléaire, donc c'est complètement différent par rapport à des pays en voie de développement, ou par rapport à la Chine, même les États-Unis, qui n'ont pas souhaité privilégier le nucléaire. Donc ça, c'est un pivot, finalement, c'est quelque chose d'important.
C'est important et... grâce à l'initiative prise par le général de Gaulle dans les années 60, poursuivie par le président Pompidou et Giscard d'Estaing, où la France a su construire à l'époque un parc de centrales nucléaires très important. C'est vrai que le nucléaire a toujours fait peur à nos sociétés. Tout le monde a en mémoire les bombes d'Hiroshima en 1945 et leur destruction massive.
Et puis Tchernobyl.
Et puis Tchernobyl par la suite. Quoique Tchernobyl, ça a sans doute été grave, mais ça n'a pas eu l'effet médiatique de la bombe, où là, a eu des milliers de morts. Ce qui veut dire qu'une centrale nucléaire bien gérée fait moins de morts, si on accepte Tchernobyl, fait beaucoup moins de morts que les mines de charbon faisaient à l'époque où on se chauffait ou on s'éclairait avec du charbon, parce qu'on avait régulièrement des problèmes de grisou dans les mines, et les gens qui travaillaient dans les mines, en général, ils avaient une espérance de vie sans doute très limitée. Donc le nucléaire, on peut dire qu'aujourd'hui, c'était quand même une chance pour la France. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des personnes qui nous menace toujours de la peur du nucléaire et pour faire réduire le nombre de nos centrales. L'exemple de Fessenheim qui vient de fermer il y a quelques mois est un exemple que je qualifierais presque de dramatique parce que cette centrale pouvait encore fonctionner un certain nombre d'années et surtout que au courant décembre, la ministre de l'Environnement a annoncé que suite à la fermeture de Fessenheim, la France pourrait manquer peut-être un peu d'électricité et à ce moment-là, nous irions nous approvisionner en Allemagne. Oui. Alors, il ne faut pas oublier quand même qu'en Allemagne, suite aux accidents du Japon de 2012 ou 13,
Fukushima.
L'Allemagne avait pris immédiatement la décision d'arrêter toutes ses centrales nucléaires et depuis a ouvert des centrales à charbon, évidemment beaucoup plus polluantes que nos centrales nucléaires. Donc nous en sommes là. Même encore aujourd'hui, il y a encore une pression pour faire réduire le nucléaire en France. Alors moi, je considère que c'est excessivement dommage, parce qu'actuellement, le nucléaire nous permet d'obtenir une électricité la moins chère, la moins chère du marché, et on va se priver de ce qui nous coûte, qui est bon marché. Et ça, c'est dommage.
On reprend sur ce que vous disiez tout à l'heure avec l'ouvrage de François Gervais.
Oui, alors François Gervais signale que le GIEC ignore de nombreuses publications sur la variabilité naturelle du climat, en particulier les cycles de 60 et 200 ans. Alors j'ai peut-être oublié de préciser que François Gervais a aussi à un moment travaillé au GIEC. Donc c'est une maison qui, à mon avis, il connaît très bien. Donc lui, dans son ouvrage, il parle des cycles de 60 ans et 200 ans où le climat, à ce moment-là, on va basculer dans des périodes plus chaudes ou plus froides. D'accord. Où les températures sont plus ou moins élevées. Donc entre 1650 et 1695, période froide, les taches observées parfois sur le soleil étaient disparues. Ces taches influencent sur les températures. Statistiquement et à l'échelle mondiale, le froid, même modéré, tue plus radicalement qu'une vague de chaleur. Tous les épisodes passés de climat froid ont été invariablement accompagnés de famines et d'épidémies. Les océans contiennent 60 fois plus de gaz carbonique que l'atmosphère. Il nourrit le plancton des océans. En moins d'un siècle, la science a permis de faciliter le travail des hommes. La médecine fait chaque jour des progrès, on soigne mieux les maladies, la durée de vie augmente d'un trimestre chaque année. Malgré ces évolutions, on nous parle de décroissance, une écologie sensée base ses raisonnements sur la science et la logique, pas sur la désinformation et la peur. Depuis quelques années, la voiture électrique serait le principal modèle pour les déplacements. En dehors d'une utilisation purement urbaine, son autonomie est encore peu convaincante. La pollution liée à l'extraction des matériaux entrant dans sa fabrication, maintenance des batteries, électricité intermittente, etc., sont moins favorables que les véhicules thermiques. Il faut accélérer la recherche de la chimie du végétal, qui, à partir de la biomasse, peut fabriquer du bioéthanol, des molécules biodégradables, du méthane, etc. Il faut produire des sources d'énergie renouvelables, non intermittentes, demain à partir de micro-algues. En fin d'année 2015, la COP21 se déroulait à Paris. Philippe Verdier, présentateur météo sur la 2, écrivait un livre sur le réchauffement climatique avant la conférence de Paris. Dans ce livre, il émet une analyse différente des discours officiels sur le sujet. Il est immédiatement licencié par France 2. En 2016, 200 scientifiques spécialistes du climat et de l'énergie, originaires de 26 pays, dénoncent les dérives sur l'amplitude du réchauffement climatique. L'écologie ou la science de l'environnement. C'est la science qui a pour objet les relations des êtres vivants, animaux, végétaux, micro-organismes, avec leur environnement, ainsi qu'avec les autres êtres vivants. Nous en faisons chaque jour, sans trop nous poser de questions. Aujourd'hui, on nous donne facilement mauvaise conscience. On a peur de tout, on fait peur à tous. On arrête d'entreprendre. La France, sous la pression écologique, s'affaiblit, s'appauvrit. N'est-ce pas la société qui crée des besoins, toujours plus, si possible, toujours moins cher? Aujourd'hui, les gens veulent manger bio. Pourquoi pas? À titre personnel, j'ai connu l'agriculture biologique à l'époque où mon père était agriculteur.
Donc on a longtemps importé des céréales pour nourrir notre population.
Avant la guerre de 1914, la France importait du blé d'Algérie. Mmh. Aujourd'hui, notre relation avec l'Algérie, qui est nécessairement difficile depuis bientôt 70 ans, était une terre où on produisait facilement du blé, qu'à l'époque on ne réussissait pas à produire suffisamment en France. Mmh. Les médicaments pour les plantes sont les produits phytosanitaires, décriés par les marchands de la peur. Ils sont conçus pour tuer les parasites de tous ordres, virus, bactéries, champignons, insectes, rongeurs, autres végétaux, qui attaquent les plantes, détruisent les cultures et produisent des toxines infiniment plus redoutables que les microtraces de pesticides qui peuvent encore subsister après la récolte. Ne pas confondre, et là je conclurai cette première partie, il ne faut pas confondre le scientifique de l'écologie, qui est un écologue, avec l'écologiste, qui est un politique.
Oui, ça c'est bien dit, je dirais. C'est un des thèmes de la discussion d'aujourd'hui, l'écologie. Et finalement, c'est peut-être pollué par la politique, trop utilisé en tout cas par les hommes politiques d'aujourd'hui. Alors Pierre Legrand, aujourd'hui on a abordé plusieurs thèmes autour de la nature, de l'environnement. On aurait pu en parler beaucoup plus longtemps. Par contre, vous avez introduit différentes choses dont on pourra parler la semaine prochaine, en parlant notamment des énergies alternatives. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci, monsieur Legrand.
Merci.